Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
19h, c'est l'heure. Non, 19h30.
Ah, vous êtes sûr, on est 19h.
Oui, 19h30. Ravi de vous retrouver ce soir. Un événement majeur dans la campagne des Européennes. Cela s'est passé aujourd'hui. On en parle dans un instant. D'abord, l'actualité avec Simon Guilla.
Bonsoir Christine et bonsoir à tous. À l'occasion des 80 ans de la Libération, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui dans le Vercors. Le président de la République a rendu hommage aux combattants de ce marquis. L'incarnation d'une France indissociable de la République, selon le chef de l'État. Le GIGN célèbre aujourd'hui ses 50 ans. Avant 1974, la France ne disposait pas d'unité d'intervention spécialisée dans la gestion de crise et de contre-terrorisme. Chaque année, l'unité d'élite participe à une demi-douzaine d'exercices d'ampleur. Et puis c'est l'affiche de ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le PSG affronte ce soir à 21h le FC Barcelone. Un match à suivre sur Canal Plus Foot. Les Parisiens doivent impérativement s'imposer au Camp Nou s'ils veulent poursuivre le rêve européen, cher Christian.
Merci beaucoup à Simon Guilin pour ces informations. Et au sommaire ce soir, qui fait la loi dans la capitale politique de l'Europe ? Le roi belge, les députés européens, le bourgmestre ou l'extrême droite turque, alliée de circonstance de l'extrême gauche woke et belge. Cet après-midi, un maire socialiste bruxellois proche de l'extrême droite turque a envoyé la police pour interdire Éric Zemmour à une conférence avec une quarantaine d'autres intervenants. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de conservateurs européens comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Nigel Farage, Florence Bergeau-Bacler. En quoi est-ce un acte de censure assumé au cœur de l'Europe ? La démocratie a-t-elle encore un sens ? L'édito de Mathieu Bocoté. C'est sur CNews cet après-midi que la ministre de l'Outre-mer, Marie Guévenoux, a déclaré que le texte sur l'abrogation du droit du sol à Mayotte sera déposé fin mai. Mayotte, submergée par l'immigration illégale, fait face à d'énormes difficultés au quotidien. Le gouvernement a d'ailleurs lancé Wambushu 2 aujourd'hui, un an après la première opération. Objectif, lutter contre l'immigration illégale, le logement insalubre, la sécurité. Un lancement dans une relative indifférence en comparaison de la première. Comment l'expliquer ? L'analyse de Dimitri Pavlenko. L'Australie offre sa citoyenneté à Damien Guéraud, héros français de Sydney, qui a tenté de bloquer l'assaillant dans un escalator ce week-end. L'homme a finalement été abattu par une policière. Cette dernière a été félicitée, qualifiée d'héroïne publiquement par le Premier ministre australien. Mais pourquoi en France, les policiers ne sont pas traités comme des héros ? Pourquoi en France, les policiers qui interpellent les assaillants comme à Bordeaux ne sont pas valorisés comme des héros, mais ont tous une enquête de la police des polices ? Quel est notre sens de l'héroïsme ? Le regard de Marc Menon. Alors que nous évoquions les chiffres de l'Allemagne et la surreprésentation des étrangers dans la délinquance la semaine dernière, en France aussi, le gouvernement avait publié des chiffres en ce sens il y a quelques semaines. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie les a analysés. Nous tentons de comprendre comment expliquer la violence chez les étrangers. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis, peut-on s'interroger sur la tournée des universités organisée par LFI en pleine campagne des européennes ? Tournée dans des salles non payantes qui ne sont pas dédiées à la politique. Un millier de personnes à Nantes il y a une semaine. À Lyon, beaucoup sont attendus. Demain soir, un millier d'inscrits déjà à Lille jeudi. La drôle de campagne de LFI, l'édito de Mathieu Bocoté. Voilà, une heure avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. Beaucoup de sujets. Et puis un sujet, Mathieu Bocoté, qui a marqué la journée ce sujet de la censure. Alors on va en parler avec vous. Aujourd'hui, donc, se tenait, avant de vous montrer une petite séquence pour introduire votre édito, aujourd'hui se tenait à Bruxelles un important colloque de ce qu'on appelle les nationaux conservateurs, cette mouvance intellectuelle qui entend refonder la droite occidentale, je ne me trompe pas, autour de la défense de la souveraineté nationale, de l'identité culturelle des peuples et de la critique du mondialisme. Alors, je dis que ce devait se tenir, puisque le colloque qui rassemblait, je disais en titre, le Premier ministre Viktor Orban, l'ancien chef du Brexit Party Nigel Farage, ou encore le chef de Reconquête Éric Zemmour et l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair, a été interdit, puis interrompu suite à une descente de police. Je vous propose une séquence et ensuite on en parle avec vous.
Bonjour messieurs.
Enchanté monsieur Zemmour, vous êtes bienvenu.
Merci beaucoup.
Vous voyez, nous sommes à Bruxelles. Ah. Comme Trump a dit, c'est le hellhole.
C'est-à-dire ?
Et la police est utilisée comme milice privée du bourgmestre socialiste et turc qu'ils ne veulent pas qu'on organise notre réunion.
Bon ben vous voyez, mais vos amis, à quoi on vous utilise ? Moi j'étais venu pour intervenir ici. Je vois que le maire, le bourgmestre comme on dit ici, qui apparemment a des liens avec les loups-gris islamistes d'Erdogan, utilise la police comme une milice privée pour empêcher des Français et des Européens d'intervenir librement.
Mathieu Bock-Côté, en quoi est-ce une séquence majeure, ce qui s'est passé aujourd'hui ?
Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, c'est une séquence absolument majeure, centrale. Et ce qui est absolument scandaleux, j'y reviendrai, c'est qu'elle ne soit pas traitée comme telle dans la plupart des médias. Je résume en un mot, on est devant un colloque d'une organisation très importante dans le milieu, surtout anglo-saxon, mais pas seulement, qui trouve de l'écho ailleurs en Europe, c'est les NatCon, comme on dit, les nationalistes conservateurs. Je précise que le mot nationaliste ici n'a pas une connotation négative. En d'autres pays, le mot nationaliste est un mot qui passe bien. Donc les nationalistes dits conservateurs qui se rassemblent depuis plusieurs années déjà dans des colloques, dans des événements des deux côtés de l'Atlantique, qui rassemblent des hommes politiques ou d'ex-hommes politiques, des intellectuels, des fonctionnaires quelquefois, des personnalités des médias qui cherchent, vous l'avez dit, à refonder la droite occidentale en sortant du logiciel mondialiste ou néolibéral et pour lui redonner un contenu donc centré sur la souveraineté des États, l'identité nationale, la critique du mondialisme, du multiculturalisme, de l'immigration massive. Donc ça, c'est un progrès. Et j'insiste pour dire que ce sont des conférences de bonne tenue. Et ces conférences ont eu lieu un peu partout. Il n'y a jamais eu de problème pour la tenue de ces conférences. Et là, il y a Bruxelles. Nous le savons, c'est pas de nouvelle. Bruxelles, en fait, la Belgique, connaît une dérive autoritaire au sein de l'Europe occidentale. Ça, c'est su avec le fameux cordon sanitaire, mais pas seulement. Ça faisait quelques jours qu'on savait que ce colloque avait des soucis. Il y a eu trois tentatives il y a trois lieux où on a voulu l'organiser. Le premier endroit, là, le bourgmestre, comme on dit là-bas, le maire de la commune socialiste, a dit non, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça ici. Nous ne voulons pas de cette conférence. Ensuite, autre commune, un maire libéral dit libéral, vous savez, les défenseurs de la liberté d'expression officiellement. Ils disent non, on ne veut pas de ça ici, c'est pas possible. Une troisième commune, donc Saint-Josse, et là, le maire en question donc, est un ancien socialiste, mais vous l'avez mentionné avec raison, c'est surtout un nationaliste turc proche des branches les plus, donc les loups-gris, les branches les plus radicales de la grande mouvance Erdogan, et qui est en rupture en partie avec le Parti socialiste parce qu'il entretient des liens directement avec cette mouvance. Faut juste pas l'oublier. Eh bien, il apprend ce matin que le colloque a lieu. Et ça le révolte. Il n'accepte pas. Donc, que nous dit-il? Il fait un tweet. Il apprend ça vers 8 heures ce matin. Donc, le tweet, c'est Émir Kir, son nom. « J'ai pris un arrêté du bourgmestre pour interdire l'événement National Conservatism Conference pour garantir la sécurité publique. À Etterberg, à Bruxelles, à Bruxelles-Ville et à Saint-Josse, l'extrême droite n'est pas la bienvenue. » Alors, vous voyez, c'est un argument, c'est un tweet double. Premièrement, on nous ressort l'argument de la sécurité publique. L'argument de la sécurité publique, ça, c'est l'argument qu'on nous sort en toutes circonstances qu'on veut faire interdire un événement aujourd'hui. J'ai parlé plutôt aujourd'hui un ancien sénateur belge qui me disait c'est une blague tout ça, la police de Bruxelles est parfaitement capable d'assurer la protection d'un événement comme celui-là. D'autant, soyons sérieux, que la vérité est dans la deuxième partie du tweet. L'extrême droite n'est pas la bienvenue. Il va dire aussi un peu plus tard son refus catégorique de tout événement à tendance fasciste au sein de sa commune. Ça, c'est le maire, ou le bourgmestre, nationaliste turc, à Bruxelles, qui, un ancien des socialistes, vous voyez, en fait, la Belgique, c'est le premier territoire conquis d'Europe. C'est le premier territoire qui a basculé à l'échelle de l'histoire, si on prend au sérieux l'idée d'une conquête islamique, ou islamiste, dis-je, de l'Europe, la Belgique a tombé. La Belgique résiste un peu, mais la Belgique a tombé. Le problème, c'est qu'à Bruxelles est la capitale des institutions européennes.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Je pense qu'on en a la preuve ici. On a un maire qui décide de traiter. On pourrait parler tout simplement du basculement démographique à Bruxelles, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de la présence. Allez faire un tour à Bruxelles et voyez à quel point le niqab est banalisé. Je dirais presque que c'est la norme en certains endroits. Par ailleurs, on est ici devant un maire qui se donne le droit d'utiliser la police à la manière d'une milice privée pour interdire un événement qui va contre ses convictions politiques. On est dans le communautarisme à la puissance 1000. Et donc je raconte la scène telle qu'elle arrive aujourd'hui. Vers 12h30, Nigel Farage, qui est l'homme du Brexit en Grande-Bretagne, celui qui a porté ce combat, à 12h30, les policiers arrivent. On est en Occident, en 2024. Les policiers arrivent pour interdire un colloque. Donc, il y a une descente de police suite à un ordre politique pour interdire la tenue d'un colloque, j'insiste, international, qui rassemble le premier ministre, Viktor Orban. On en pense ce qu'on veut, la question n'est pas là. Le fait est qu'à ce que j'en sais, il est premier ministre de la Hongrie. Donc, Viktor Orban, plusieurs intellectuels de référence, pas des gens qui pensent tous la même chose, soit dit en passant. Madame Bergeau-Blaclair n'est pas exactement une conservatrice. Elle était présente pour exposer son point de vue à des gens qui pensent autrement. Madame Braverman, l'ancienne ministre de l'Intérieur en Grande-Bretagne. Donc, vous aviez un panel très, très large. Eh bien, aujourd'hui, c'est une descente de police pour interdire un événement international à Bruxelles. Ce n'est pas étonnant que ce soit à Bruxelles dans les circonstances.
Quelles sont les réactions à cette interdiction?
En Belgique, c'est fascinant. Vous avouez, j'ai passé la journée en colère avec ça. J'essaie de le cacher.
Ça ne se sent pas du tout.
En Belgique,
j'ai beaucoup de questions à vous poser. D'ailleurs, on fera un tour de table dans un instant. Hein.
Alors, en Belgique, ça nous a été raconté de la manière suivante, globalement. Un rassemblement d'hommes d'extrême droite a été interdit par le bourgmestre. Donc, c'est fascinant. Donc, le récit, c'est un rassemblement d'extrême droite. Lequel exactement? Qu'est-ce qu'on entend par extrême droite? Interdit par le bourgmestre. Or, on sait qu'en Belgique, l'extrême droite, entre guillemets, il est légitime de faire le cordon sanitaire contre ça. Donc, ça nous est raconté comme une espèce d'histoire, presque un fait divers politique. C'est quand même fascinant. Ensuite, est-ce qu'on a des échos dans les médias ici et là? Un écho assez mineur, comme s'il s'agissait d'un non-événement. J'aimerais simplement vous mettre... Imaginez un scénario. Vous avez un rassemblement important de leaders socialistes et sociodémocrates en international. Mais ça se passe en France ou en Belgique. Et là, vous avez un bourgmestre, si c'est en Belgique, conservateur ou de droite, qui décide d'interdire l'événement parce qu'il n'aime pas. Est-ce que vous pensez un seul instant que ça ne ferait pas le tour de la planète comme nouvelle et comme information si je ne sais quel bourgmestre de droite se permettait d'interdire un événement rassemblant le gratin de la social-démocratie mondialisée? Alors là, on aurait le scandale. Mais là, ce ne sont que des hommes politiques dits de droite. Donc la censure, elle est légitime. En fait, les seuls à s'être manifestés, sauf quelques exceptions pour dénoncer, c'était des gens qui ont participé au colloque. Nigel Farage a dit que c'était scandaleux, qu'il parle d'une dérive totalitaire. Je ne le contesterai pas. Éric Zemmour a cette formule qui n'est pas mauvaise quand même. Jadis, la Belgique accueillait Victor Hugo en exil. Désormais, ce pays vit entre le califat et la dictature. François-Xavier Bellamy, il faut souligner, se porte à la défense du colloque. Et je prends sa citation, elle est très importante. Un maire socialiste bruxellois, proche de l'extrême droite turque, envoie la police interdire une intervention d'Éric Zemmour et Nigel Farage. Quelles que soient nos convictions, tout démocrate sincère doit résister à cet acte de censure assumé au cœur de l'Europe. Liberté, dit-il. Et c'est fondamental ce qu'il dit ici. Il dit que vous soyez d'accord ou non avec ce qu'il allait se dire à ce colloque, si vous croyez minimalement à la liberté d'expression, vous vous portez à la défense de ce colloque. J'y reviendrai dans un instant. Est-ce que ça a eu lieu? On peut en douter. Viktor Orban. Ah, le grand méchant Viktor Orban. Mais Viktor Orban a une qualité que d'autres hommes politiques n'ont pas en Europe. Il a résisté au communisme, lui. il a résisté au communisme, le vrai communisme. Là. Il a tenu tête à tout ça. Vous savez, les vrais régimes autoritaires qui étaient capables de casser un homme si on s'y opposait. Eh bien, il nous dit, de ce colloque, que c'est la première fois depuis 1988, autrement dit, quand la Hongrie était dominée par les communistes, et les Russes, soit dit en passant, c'est la première fois que je vois remettre en question ma liberté d'expression de cette manière. Il nous dit, nous ne capitulerons pas. On peut aller voir son tweet en anglais pour ceux qui lisent l'anglais, mais je résume en un mot. Autrement dit, il compare ce qui s'est passé à Bruxelles aujourd'hui à ce qui se passait en Europe de l'Est au temps de la domination communiste. Et je pense encore une fois qu'il a raison. On ne peut pas être en désaccord complet avec toutes les politiques de Viktor Orban. Ça appartient au droit à chacun. Mais ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, lui, qui a connu la domination communiste, il dit « ça se ressemble terriblement ce qui s'est passé aujourd'hui ». Alors, est-ce que quelques personnes se sont prononcées à l'extérieur de ceux qui étaient invités au colloque? Très peu. Très peu. Rishi Sunak, le premier ministre britannique, ça vaut la peine de le dire, s'est porté à la défense de la liberté d'expression. C'était rapporté...
On va voir son tweet.
Ouais, voilà, par Sky News, qui est une chaîne britannique, qui a rapporté l'information en disant que la liberté d'expression est absolument essentielle, elle est fondamentale. Ce qu'on voit ici, c'est un journaliste de Sky News qui rapporte l'information. Donc ici, on pause. Mais sinon, est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble de la classe politique européenne s'est mobilisée aujourd'hui pour dénoncer cette descente de police dans un événement politique? Est-ce que vous avez l'impression que les différents présidents, les différents premiers ministres, les défenseurs des droits de l'homme, les Reporters sans frontières et compagnie se sont mobilisés pour défendre le droit de tenir un colloque privé dans la capitale de l'Europe, qui se présente comme la capitale de l'état de droit en général? Est-ce qu'on l'a entendu? Non. Grand, grand, grand silence. Et je pense que le vrai scandale est aussi là. Non seulement on interdit un événement, non seulement on mobilise des forces de police pour l'interdire. Non, mais ça fait quand même pas mal printemps de Prague 68. Ça fait quand même un peu Moscou 1982. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? Eh bien, les dirigeants européens ont piscine aujourd'hui. Ils n'ont rien à dire. On est au cœur des élections européennes et ils se taisent ou ils se cachent ou ils n'ont rien à dire. Ou pire encore, ils sont d'accord mais n'osent pas le dire.
Ce silence.
Oui, absolument.
Est-ce pour vous une illustration de ce que vous appelez, c'est le titre de votre dernier livre d'ailleurs, le totalitarisme sans le goulag?
C'est exactement ça. Il faut bien voir ce qui se passe. Alors, vous savez, moi j'ai souvent dit, pour moi, l'Union européenne est à l'Europe, à la civilisation européenne, ce que l'URSS est à la Russie. Et là, on en a une preuve de plus. Si au moins les dirigeants européens avaient dit aujourd'hui, c'est scandaleux, cette espèce de petit bourgmestre nationaliste turc excité, extrémiste, se permet ça. Et si tout le monde avait dit, mais pour qui se prend ce personnage? Alors on aurait dit, bon, il y a quand même un réflexe démocratique vivant en Europe. Mais on ne l'a pas eu pour l'instant. Peut-être on l'aura à 20h30, j'en sais rien. Mais pour l'instant, on est sous le signe du silence à travers cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Au début, il y avait des interdictions de conférences, ça dérangeait personne. On s'en fout, lui, il est minoritaire, c'est un intellectuel qui compte pas, il est secondaire, pourquoi on s'intéresserait à lui? Un colloque était interdit. Mais ça compte pas, c'est un colloque, c'est des gens qui sont très radicaux. C'est pas grave qu'on interdise des colloques des gens très radicaux. Une manifestation est interdite. Ah, c'est pas grave, c'est des gens dits d'extrême droite qui voulaient organiser cette manifestation-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit un rassemblement d'hommes politiques majeurs en Europe. Qu'on soit d'accord ou non avec eux, je le redis, est complètement secondaire. En fait, c'est sans intérêt. La vraie question, c'est, on a aujourd'hui l'interdiction d'un événement politique majeur. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière ça? C'est la persécution ouvertement déclarée des éléments que l'on dit conservateurs ou identitaires ou souverainistes ou nationalistes, entre guillemets. Le terme, je le répète, n'a pas toujours mauvaise réputation. Dans un contexte où l'Europe, faut pas l'oublier, avec son acte pour la démocratie, demande aux médias de lutter contre l'extrémisme. Quand on connaît leur définition de l'extrémisme, on devine que finalement, interdire un tel colloque, c'est dans la philosophie de ceux qui pensent que l'Europe aujourd'hui se construit en condamnant les extrémismes, c'est-à-dire en réprimant les peuples qui votent pour les partis qui ne sont pas autorisés par les médias. Une volonté de contrôle de la presse, une volonté de contrôle des partis, une volonté d'étouffer un courant de pensée. On peut voir, mes amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Les dissidents des temps présents, ils étaient aujourd'hui à Bruxelles. Et la police politique, elle était à Bruxelles aussi.
J'ai beaucoup de questions à poser, je vous le disais. J'ai envie de vous relancer, mais bon, je vais faire tourner la parole. Celui qui veut parler s'exprime. Je m'étonne, par exemple, de votre étonnement lorsque je vois comment Éric Zemmour a été empêché de faire campagne de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et en disant que, quelque part... est-ce si étonnant ?
Ah, c'est pas étonnant du tout.
Vous voyez ce que
c'est
je veux dire ?
Un instant, mais là, il y a quand même une dimension.
Il a été empêché de faire campagne sur le terrain pendant la présidentielle.
Mais je vous...
Un candidat qui avait reçu ses signatures. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah, mais je vous l'accorde.
Donc,
absolument.
Pour tout le monde, ça paraît normal.
Bah, il y a une petite nuance. Une
ah,
toute petite.
Dites-moi.
C'est-à-dire, non, mais je suis d'accord avec vous. Le traitement réservé à tous les partis qu'on étiquette à l'extrême droite depuis 30 ans. Dire, les partis qui ont été persécutés objectivement en France depuis 30 ans, c'est les partis qui étaient mal étiquetés. Hein, les militants qui se faisaient attaquer, on les connaît. Et de ce point de vue, Zemmour a été empêché de faire campagne. Nous le savons. Mais là, si je me permets d'insister, il y a quand même un premier ministre d'un des pays de l'Union européenne qui est présent et on décide quand même de faire cela. Quand c'est rendu qu'il est possible de faire interdire un événement, un colloque international, vous avez un premier ministre qui est présent, c'est rendu lunaire, c'est stratosphérique, c'est dans une autre galaxie.
Deuxième interrogation, oui. Après on fait un tour de table. Est-ce si étonnant lorsque vous-même, lorsque vous aviez reçu, c'était un député dans votre émission
Alain Destex.
Vous avez parlé et vous savez à quel point en Belgique, l'extrême droite, entre guillemets, oui. Même si on n'était pas dans l'extrême droite.
L'extrême droite commence à François Bayrou en Belgique.
Hein. Oui, n'ont pas droit de citer. Ils n'ont même pas de temps de parole.
Mais je vous redis, chère Christine, pour moi, je ne suis pas étonné, je suis révolté. Je ne suis pas étonné, je suis dans une colère. J'allais dire froide, mais ça, vous ne me croirez pas.
Est-ce que c'est une colère?
Ben, on vient de franchir un cap, je crois. Je pense que la logique du cordon sanitaire, qui est contestée par ailleurs aujourd'hui en Belgique, paradoxalement, j'évite les détails, mais elle est contestée. Mais qu'est-ce qu'on voit? Comme tout système qui a peur, comme tout régime qui a peur, il se radicalise, il censure, il décide de fabriquer des parias, on cherche à fermer des chaînes de télé, on cherche à censurer les intellectuels, on cherche à interdire des conférences. Eh bien, là, le système, le régime, aujourd'hui, décide de miser sur la persécution des idées contraires. Je ne suis pas surpris. Je passe ma vie à chercher à comprendre ce système-là, mais franchement, aujourd'hui, j'avais un cran de plus dans la révolte.
Prenons le temps pour faire un tour de table sur ce sujet.
Bah, écoutez, moi, je vois clairement il y a une violation du droit à la liberté d'expression et de rassemblement, quand même, dans cette histoire-là. Donc, il y aura des conséquences judiciaires, mais je trouve que c'est assez...
Vous pensez ?
Ah bah, probablement. Moi, je pense que ça va être porté devant la justice. Et j'y vois aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une tendance chez les dirigeants politiques de gauche... Le retour d'un certain municipalisme. Je m'explique, vous avez des maires de grandes villes aujourd'hui qui s'arrogent le droit de déroger à la loi. Rappelez-vous Anne Hidalgo qui avait dit, moi, la loi immigration sur le territoire de la ville de Paris, on n'appliquera pas. Émir Kir, là, le bourgmestre, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que le premier ministre de son pays lui dit, non, vous ne pouvez pas faire ça, il le fait quand même. Et voyez, c'est la même tendance que chez les mouvements les soulèvements de la terre. On vous dit, mais on a le droit à la désobéissance civile, la désobéissance politique, la désobéissance aux règles communes et aux droits. Eh bien, dans la mesure où c'est pour lutter contre l'extrême droite, on a tout à fait le droit de le faire. Ça, c'est très inquiétant, je trouve. Et quand le maire de Bordeaux nous dit « Nous, on envisage d'expérimenter la légalisation du cannabis sur notre commune », alors il ne le fait pas, il est dans l'idée d'une proposition. Mais je veux dire, demain, il dira « On le fait sur notre territoire parce qu'on considère que c'est bien ». Vous voyez ? Et c'est ça que je trouve en fait très inquiétant derrière la décision qu'on vient de voir.
Charlotte Dornelas, lorsque notre fameux bourgmestre, Émir Kir, dit que c'est pour garantir la sécurité publique, on a déjà aussi entendu ça. En quoi là, c'est différent ?
Non, mais on entend en permanence parler de la sécurité publique. Alors je ne sais pas de quoi il parle. Alors peut-être qu'il avait lui-même, en plus de ses policiers, des gens qui étaient prêts à agresser ou à commettre des violences autour de cette conférence. Je ne sais pas ce qu'il évoquait. En général, c'est ça qui est évoqué. C'est parce qu'il y a des gens qui menacent d'être violents à l'encontre des conférenciers qu'on annule,
on
interdit de parole les conférenciers. C'est d'habitude ça qu'il se passe, plutôt que de contraindre ceux qui promettent la violence. Et en plus, on annule la conférence au nom de la lutte contre la haine. Alors que la violence vient des gens qui veulent interdire les conférenciers. Bon, retrouvez-vous dans tout ça comme vous voulez, c'est compliqué. Et là, en l'occurrence, on est au cœur, en effet, enfin à Bruxelles et les institutions européennes. Et là, en plus, c'est un colloque qui se fait à l'échelle européenne, dans une campagne européenne, avec des institutions qui d'habitude nous expliquent que la lutte contre la haine passe par l'état de droit qui interdit par exemple d'expulser quelqu'un condamné pour terrorisme qui a tué dans un des pays de l'Union européenne. Et là, l'état de droit a disparu, alors qu'il s'agit en l'occurrence de respecter la loi, rien de plus.
On marque une pause, je vous fais réagir juste après, Marc Menant, pour revenir sur cet événement majeur de la campagne européenne. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. On parlait de cette conférence qui a été interdite par le bourgmestre Emir Kir. Pourquoi ? Parce que c'est une conférence de conservateurs. C'était à Bruxelles. On a fait un tour de table. Je vous laisse réagir dans un instant le mot de la fin pour passer aux chroniques. Même Marc Menant, vous n'avez pas encore réagi. C'est assez surprenant. Et comme disait Mathieu Bocoté, on voit l'arrivée du totalitarisme en direct.
C'est-à-dire qu'on a l'illusion de la démocratie. On essaie d'entretenir ça tous les jours. Vous avez de la chance, vous pouvez voter. Tous les jours, vous pouvez vous exprimer. Mais depuis des années maintenant, il y a une sorte de gangrène qui s'est instaurée et vous n'avez plus le droit de réfléchir. L'espace de l'ébullition intellectuelle s'est tellement renfrogné que vous ne pouvez plus avoir le droit d'une expression que si elle est contrôlée et admise par les médias. C'est-à-dire que vous avez des partis politiques qui sont considérés comme légaux. Ils se présentent aux élections, ils ne sont donc pas des séditieux. Ce sont des gens respectables et qui devraient être respectés. Eh bien là, vous avez des gens qui, eux, ne se présentent pas devant les urnes et qui déterminent qu'il y a une pensée à avoir, une conduite à avoir et un politiquement correct qui doit s'incliner devant le communautarisme. Et tout ce qui ne vient pas servir le communautarisme est combattu et taxé d'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, si l'on regarde véritablement, c'est une longue, longue bande où vous avez des gens de gauche, de droite, etc., qui veulent simplement faire vivre une culture et une idée démocratique réelle. Eh bien ça, c'est banni dans notre système. Voilà ce qui est honteux, intolérable, et hurlons, non pas avec les loups, mais avec Mathieu Bock-Côté.
Puisque, donc, je rappelle le bourgmestre de Saint-Josse-Tannoude, Emir Kir, qui a pris un arrêté de police. Il a évacué avec la police Éric Zemmour ainsi qu'une quarantaine d'invités, hein, Florence Berger-Baquer, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Nigel Farage, parce qu'il tenait une conférence.
Et c'est l'influence de la Turquie qui est derrière. Parce qu'on n'en parle pas assez.
On en a parlé.
Mais ils infiltrent les écoles, ils infiltrent tout.
Ah oui. Et on a dit que justement le bourgmestre est proche de l'extrême droite turque. Un dernier mot là-dessus, Mathieu Bocoté.
Alors tardivement, disons-le, tardivement, fin de journée, le Premier ministre belge s'en est finalement inquiété, très bien, je note avec bonheur. J'attends désormais la réaction, pardonnez-moi, de l'ensemble de la classe politique européenne pour condamner très clairement. Je serais curieux de savoir d'ailleurs, en France, qu'est-ce que ça inspire à la classe politique? Comment réagit-elle devant cette censure manifeste? Ça va être un test démocratique à passer dans les prochaines heures.
Merci. Voilà le Premier ministre belge qui condamne cette décision d'interdire cette conférence qui, selon lui, est anticonstitutionnelle. À suivre, en tout cas. Dimitri, toute autre chose. En parlant avec vous de LFI, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous défendez, entre guillemets, les colloques de LFI dans les universités.
Et je le fais.
Dans un instant. Dimitri, dans l'actualité ce mardi, on reparle de Mayotte avec le lancement tôt ce matin de l'opération Wambushu 2. Elle doit durer jusqu'à la fin du mois de juin. Ce lancement se fait dans une relative indifférence. Pourquoi ? Indifférence par rapport à il y a un an.
À la première, dont on avait énormément parlé. Alors, vous n'avez pas. Non, c'est pas Wambushu 2, c'est opération Mayotte Placenet. Et oui. Je ne vous fais pas un dessin, c'est qu'on préfère le label de l'opération en vogue, celle qui marche, en tout cas qui a l'image de l'opération qui marche. Et on met de côté le nom de l'opération qui a déçu. Wambushu a déçu les Maorais. Et on va voir pourquoi. Alors, j'ai découvert d'ailleurs qu'en langue chimaoré, on ne dit pas Wambushu, on dit Ouambushu, le U est placé en fait est la première lettre du mot et ça a un double sens.
Vous avez bien
c'est
fait
intéressant.
Venir,
ça veut dire bon mon chimaoré est balbutiant. Ça veut dire Ouambushu à la fois oser affronter ce dont les gens ont peur. Ça veut dire aussi récolter ce que l'on sème. Vous allez voir c'est intéressant. On en joue beaucoup. Oui, alors bon, je ne sais pas comment on l'emploie exactement, si c'est un nom, si c'est un verbe, voilà. Alors, Mayotte Placenet, pour être clair, c'est Wambushu 2. Le but, c'est exactement le même qu'année dernière, lutter contre l'immigration illégale, contre l'insécurité, contre les bidonvilles, sachant que l'insécurité et les bidonvilles sont les conséquences de l'immigration illégale. Ça, on l'a tous compris. Alors, je vous lis rapidement la fiche de l'opération, ce qu'a dit ce matin Marie Guévenoux, donc la secrétaire d'État chargée des Outre-mer. 1700 membres des forces de l'ordre mobilisés pendant 11 semaines pour du maintien de l'ordre, des expulsions, ce qu'on appelle les décasages. Vous savez, c'est raser les bangas, ces constructions de fortune qui prolifèrent sur l'île. Et puis de la police judiciaire. Ça, c'est la nouveauté de l'opération cette année. C'est-à-dire qu'il va y avoir des interventions ciblées visant les chefs des filières de passeurs, les chefs de gangs, etc. Il y a une soixantaine de cibles identifiées. Et pour cela, on a fait venir de l'Hexagone des enquêteurs de la police judiciaire. On va renforcer le dispositif aussi en mer. Alors, ce n'est pas le rideau de fer qu'avait vendu Gérald Darmanin. On a deux vedettes côtières. Ça va être couplé avec du renseignement fourni par les armées pour détecter, intercepter les Kwasa-Kwasa. Et on fera la même chose aussi dans le canal du Mozambique. Vous savez, donc entre l'Afrique continentale, Madagascar et Mayotte, pour tous les migrants qui proviendraient de ces zones-là. Et vous avez un avion civil qui multipliera aussi. Voilà. Donc c'est tout ça le dispositif de Wambushu 2.
Alors les moyens mis sur la table paraissent dérisoires, non, compte tenu des problèmes de Mayotte.
Ben, c'est vrai, parce que quand vous voyez... C'est d'où
l'indifférence. On a envie de se demander à quoi ça sert tout ça, oui.
Oui, d'où le sentiment d'indifférence, ou plutôt... de désillusion, je dirais, des Mahorais qui se disent à quoi ça va servir, on n'en attend pas grand-chose, parce que vous avez quand même un empilement des crises à Mayotte qui est ahurissant. La crise de l'eau, je ne vais pas y revenir, l'insécurité avec, alors tous les jours, j'ai regardé sur les 10 derniers jours, des écoles vandalisées, des bus caillassés, des barricades sauvages sur les routes, des meurtres, des maisons brûlées, des gens tabassés pour un oui, pour un non. Le préfet de Mayotte qui vient d'arriver le nouveau en février... Il se rend il y a 10 jours à un Futari, c'est-à-dire en fait la rupture du jeûne. Vous savez que Mayotte est musulman à 95%. Il se fait pas passer à tabac, mais enfin bon, il y a des jeunes qui déboulent de partout. Il faut exfiltrer le préfet et son épouse. Et sur le chemin du retour, ils se font à nouveau caillasser. Enfin, c'est ahurissant. C'est ça, Mayotte au quotidien. J'allais oublier, 10 cas de choléra ont été identifiés sur le mois écoulé. 5 cas concernant des clandestins qui ont été interpellés en mer. Voilà, et c'est comme ça tous les jours, si vous voulez. C'est l'enfer mahorais au quotidien.
La première opération Wambushu, on se demande finalement, Dimitri, est-ce qu'elle a servi à quelque chose ?
Alors, oui, elle a quand même servi à quelque chose. C'est-à-dire que pendant les mois où elle a eu lieu, c'est-à-dire comme l'année dernière, d'avril à juin, ça allait mieux. On a arrêté pas mal de chefs de bande, oui. Mais il y a eu énormément de résistance. Et cette résistance-là, je pense qu'elle a été sous-estimée par les forces de l'ordre. Vous avez un policier qui, dans le Figaro, raconte que la CRS-8, vous savez, c'est ce groupe qu'on a créé, que Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur, a créé spécifiquement pour lutter contre les violences urbaines, donc soi-disant des spécialistes de ce genre de choses. Le policier nous dit que la CRS-8 s'est fait manger par les bandes de jeunes. C'est le mot qu'il emploie. Des bandes, et là on parle quand même de centaines d'individus armés, souvent des mineurs. Et ce qui est désespérant pour les policiers, c'est que vous les interpellez. Mais qu'est-ce que vous en faites ? Mais rien, parce que vous avez seulement 8 places pour mineurs dans la seule prison de Mayotte. 8 places, quand vous avez des bandes de centaines d'individus. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous faites rien. Voilà, c'est ça qui se passe très concrètement. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois de juin, c'est-à-dire à la fin de l'opération Wambushu ? C'est que la CRS-8, elle a été rappelée dans l'Hexagone pour les émeutes. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les bandes, eh ben, elles ont repris le pouvoir et elles se sont vengées sur la population avec des opérations coordonnées à plusieurs endroits, au même moment. Il y a plein de témoignages dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pour ça que les Maorais, pardon, disent régulièrement Wambushu, ça doit être tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Alors quelles sont les chances, Dimitri, que Wambushu 2 réussisse mieux que la première ?
Bah, écoutez, je vais vous dire que ce n'est pas facile à évaluer, parce que d'abord l'opération elle est à moyen constant. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus de forces de l'ordre mobilisées cette année que vous n'en aviez l'année dernière. La situation sécuritaire, elle paraît encore plus mauvaise que l'an dernier. Et la population mahoraise, elle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on en avait parlé sur le plateau de Face à l'Info, et la population s'était mise, elle aussi, à dresser des barrages au mois de janvier-février. Ils promettent de le refaire s'ils sont déçus, et je pense qu'ils ne manqueront pas de l'être. Tout le monde a en tête que les Jeux Olympiques arrivent, et il va se repasser ce qui s'est passé, et ce que je viens de vous raconter concernant la CRS-8, lorsqu'elle a dû partir précipitamment au moment des émeutes. Sur l'immigration clandestine, parce qu'il faut en revenir là, c'est la racine, évidemment, de tous les problèmes de l'archipel. Wambushu 1 visait 300 expulsions par jour vers les Comores. 300 expulsions par jour contre 70 expulsions par jour en 2022, l'année précédente. Donc l'idée, c'était de multiplier par 4 ou 5 le volume d'expulsions quotidiennes vers les Comores, qui est la première destination, zone de départ en provenance d'immigration en direction des Comores. Le bilan, c'est qu'en 2023, il y a eu moins d'expulsions. qu'en 2022. Le but étant, était, je vous rappelle, de multiplier par 4 ou 5. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a braqué les Comores, en fait, cette opération Wambushu qu'ont fait les Comoriens. Ils ont fermé la frontière pendant un mois. Ils ont annulé au dernier moment une visite de Sébastien Lecornu. Et des associations comoriennes un peu partout en France ont multiplié les manifestations contre la déportation des Comoriens à Mayotte. Enfin, vous voyez les termes. Ils ont même fait courir le bruit que la France s'apprêtait à commettre des massacres à Mayotte. Enfin, n'importe quoi. Et donc, l'idée des autorités françaises cette année, c'est de travailler la diplomatie, mais en douceur. Et vous voyez cet aveu du préfet de Mayotte, le même qui se fait caillasser lorsqu'il se rend dans un village. Il nous dit ce matin, le but c'est d'expulser, je le cite, dans les mêmes proportions que les années précédentes, de ne pas reconduire plus fortement que d'habitude. Donc ça, si ce n'est pas un aveu d'échec, quand vous avez une croissance démographique à Mayotte qui est poussée par l'immigration de 4% par an, quand les bidonvilles s'étendent à vue d'œil. Voilà, donc en fait, voilà, moi je vous annonce l'opération Wambushu 3, ou plutôt nous dirons Wambushu 2025, parce que les opérations Wambushu, vous savez, c'est comme la coupe de printemps, elle sera renouvelée chaque année pour gérer finalement une situation pour laquelle on n'a absolument pas de solution.
Merci infiniment, Dimitri, pour cette analyse. Marc Menant, juste avant de vous donner la parole, on va regarder un off, juste quelques petites secondes, l'image de la flamme olympique, parce que vous parliez des JO hier. Donc la flamme olympique qui a été allumée donc aujourd'hui à 101 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, organisée du 26 juillet au 11 août. Toute l'équipe de Face à l'Info sera évidemment présente. Je rigole. Non, mais vous avez avoué que vous ne serez pas là. La nageuse Laure Manaudou a été la première religieuse française. La flamme entame un parcours de 5000 km à travers la Grèce pendant 11 jours. Alors, voilà, vous nous parliez hier des JO, mais aujourd'hui, on va parler de toute autre chose, Marc, maintenant. L'Australie offre sa citoyenneté à Damien Guéraud, héros français de Sydney qui a tenté de bloquer l'assaillant dans un escalator le week-end dernier, on s'en souvient. L'homme a finalement été abattu par la policière. La policière, elle, a été applaudie, traitée en héroïne par le Premier ministre australien. Et la question que j'ai envie de vous poser ce soir, comment expliquer qu'en France, les policiers ne sont pas traités en héros? Comment expliquer en France que, on le sait, une enquête de la police des policiers est systématiquement déclenchée sans qu'ils ne soient pour autant applaudis, encouragés, définis en héros, comme on a vu à Bordeaux, celui qui a arrêté l'assaillant de Bordeaux, par exemple.
Il a abattu, oui.
Je vous en prie.
Non, mais
je n'ai pas dit le mot exprès. C'est pas un chien, c'est pas malin.
Oui, naturalisé. Enfin, comment
non, vous... mais... non. Oui, mais qui a maîtrisé. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et votre âme de gauche, on sent qu'elle est déborde.
Non, mais
pour vous dire que c'est abattu, oui.
Oui.
Pour ne pas tuer des enfants, pour ne pas tuer d'autres personnes, pour ne pas tuer, etc. Oui. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que eux. J'ai regardé pas de tweet de Gérald Darmanin, pas de message du Premier ministre, etc. On se pose la question.
Mais ça pose la question du merveilleux métier qui est un métier de responsabilité de policier. Qu'est-ce qu'un policier? On ne devient pas policier comme on entre en serrurerie ou en menuiserie. On entre dans la police parce qu'on a un sens du devoir et que l'on est conscient des risques que l'on va affronter afin de défendre nos libertés. On sera ceux qui incarne les piliers de notre pays. Par conséquent, notre vie sera exposée. Comme un militaire. On ne devient pas militaire comme cela. On devient militaire en sachant qu'un matin, on peut se lever et on vous demande de participer à une intervention, que cette intervention mettra en péril votre propre existence. Par conséquent, il faut glorifier le policier dans son travail au quotidien. Le policier doit intervenir, il est armé, c'est-à-dire que c'est le seul citoyen qui dispose et qui a le droit de tirer sur un individu. C'est un privilège, entre guillemets, mais qui vous donne une responsabilité écrasante. On ne peut pas tuer pour tuer. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure abattu? C'est ce qui fait la différence entre l'arrestation et le moment où vous êtes obligé, ou que vous pensez que vous êtes obligé, d'abattre celui qui est en face de vous. Il y a la suppression d'une vie.
C'est jamais de gaieté de cœur et c'est toujours pour protéger d'autres.
Non, mais
Mais permettez-moi, ceci n'empêche pas non plus d'être reconnu en tant que héroïque, d'avoir fait un geste héroïque. Je veux dire que, comme le dit par exemple le Premier ministre italien, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne retrouve plus mes notes, mais il dit que ceux qui portent l'uniforme se précipitent vers le danger au lieu de l'éviter. Je veux dire, vous pensez que tous les policiers auraient agi de la même façon ?
C'est leur devoir, ils s'engagent pour ça. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas un métier, j'insiste là-dessus, c'est pas un métier comme les autres. Et par conséquent, parce que vous avez cette responsabilité que peu de citoyens ont à disposition, vous devez éventuellement rendre compte de ce qui a conduit à l'élimination. Un policier n'est pas un justicier. Un policier est là pour faire régner l'ordre. Et si pour faire régner l'ordre, il est conduit malheureusement à l'ultime, il doit s'en expliquer. Il n'y a rien là d'offusquant. Après,
ça n'empêche pas les honneurs, la reconnaissance du travail.
Oui, non, mais bien évidemment. Mais ça ne vous fait pas de vous un héros non plus. C'est de la philosophie. Qu'est-ce qu'un héros ? Un héros, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, se place dans une situation où, théoriquement, il n'a pas les moyens d'imposer la loi, il risque sa vie spontanément, sans engagement. Les deux Français qui sont intervenus avant que la policière australienne n'abatte l'individu...
Neutralise, le bon terme.
Neutraliser, ça peut signifier que vous l'avez ceinturé. Tandis qu'abattu, ça veut dire qu'il n'est plus. Il ne faut pas oublier la langue, il n'y a rien de... Je ne suis pas en train d'accuser qu'elle a tué. Il y a une grande différence.
Vous n'êtes pas loin, mais continuez.
Ah mais non, c'est la différence. C'est ça, la richesse d'une langue. Entre tuer et abattre, ce n'est pas pareil. Tuer, c'est... Là, il y a un moment, il y a un geste qui est un geste indispensable et dont vous avez à rendre compte vis-à-vis de votre hiérarchie. Et là, vous avez deux individus. Deux personnes qui vont à la salle de sport, qui ne sont pas du pays, qui sont témoins d'un événement dramatique et qui interviennent. Ils prennent une sorte de petit pilier en métallique pour essayer d'arrêter l'assaillant qui les menace d'un couteau. Là, il y a un héroïsme. Mais d'ailleurs, ils le disent, on n'a même pas réfléchi. On a senti, c'était instinctif. Il y avait, et on n'a pas à être glorifié pour ça. C'est-à-dire que le héros n'attend même pas une reconnaissance. Le héros, c'est le jeune garçon qui a agi à Annecy. Il ne s'est pas posé de questions, il avait son sac, il est allé vis-à-vis d'un autre. Et par conséquent, l'héroïsme, c'est quelque chose qui vient ensuite, mais qui ne doit pas être désiré. On n'agit pas pour être considéré comme un héros, c'est une sorte de gratification. Le grand drame, c'est que quand on voit qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui va porter la flamme olympique, qui est qu'un honneur, une reconnaissance, tout simplement parce que sa mère lui a dit « t'es pas net, Baptiste », alors qu'il risquait de mettre le feu dans l'appartement en jouant avec des flamèches, eh bien c'est lui la récompense, l'honneur, on le donne à un personnage comme ça. Et là, on peut s'interroger sur le sens des valeurs de ceux qui nous gouvernent.
Charles Dornelas, votre regard sur cette chronique de Marc Menon, sur le fait que à la fois, on peut se poser la question. En Australie, on voit effectivement que cette policière a été traitée en héroïne, félicitée par le Premier ministre.
Et ici, on se dit que après ça manque un peu. Le Bataclan, me semble-t-il, où les forces de police et toutes celles qui étaient intervenues, d'ailleurs, avaient aussi été applaudies. Je pense qu'il y a une différence entre le traitement même médiatique essentiellement, puisque Gérald Darmanin l'a fait. Il a décoré notamment les policiers qui sont intervenus à Arras. Contrairement au personnel de l'école qui s'était comporté en vraiment
très,
héroïquement.
Très intéressant.
Parce qu'en effet, ce n'est pas la même chose que quand c'est votre métier, que vous êtes armé et que vous intervenez le cadre de votre métier, ou quand vous êtes un professeur à côté, que vous intervenez avec les moyens du bord, avec quelqu'un en face qui
ça
est déterminé à tuer.
Ça n'empêche pas d'être félicité quand on est policier.
Ça n'empêche absolument pas de les féliciter. Mais c'est vrai qu'il y a un geste héroïque là, en l'occurrence, qui n'avait pas été souligné à Arras. Donc je...
Complètement. Dimitri veut dire un petit mot.
Oui, je veux dire qu'en France, c'est vrai que souvent la reconnaissance de l'héroïsme des forces de l'ordre, il est un peu pollué par le déclenchement des enquêtes IGPN, qui sont souvent des enquêtes de routine. Et vous prenez l'exemple de celui qui a abattu le meurtrier de Bordeaux, celui qui avait poignardé ce SDF. Oui. Tout de suite, le soupçon pèse sur lui parce qu'il a ouvert le feu. Et je pensais à ce policier municipal de Schiltigheim, vous savez, en Alsace, qui s'est interposé face à une moto. Il est gravement blessé. Bah, finalement, il n'y a que dans ces situations-là qu'on va reconnaître une forme d'héroïsme de victime. Hein, le policier, à la limite, il faudrait qu'il ne fasse rien pour qu'il soit reconnu comme une victime.
Enfin, moi, même pour les policiers du Bataclan. Moi, je trouve que les policiers, lorsqu'ils arrêtent un assaillant, lorsqu'ils mettent leur vie en jeu, et bien sûr, c'est tous les jours, mais lorsqu'ils empêchent un assaillant, parfois au péril de leur vie, de continuer à tuer d'autres personnes, je trouve qu'ils méritent quand même d'être traités un peu à l'australienne.
Non, mais entre des félicitations et le mot de héros, c'est sacré. Et justement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
Ah.
Dans le Vercors.
Voilà, je voulais vous en parler. En deux
dans le Vercors, en vous avez secondes. Eu des individus qui étaient des civils, qui ont risqué leur peau, qui se sont mis en rupture et risqué non seulement la leur, mais la peau de leur famille, car s'ils étaient dénoncés, ils pouvaient être éliminés. Il ne faut pas oublier qu'à Vassieux, la milice a déferlé et elle a tué l'ensemble de la population. Personnes. Et ces gens-là, eh bien, il n'y a pas eu de félicitations. Ils ont été engloutis par les événements. Ce n'est seulement qu'aujourd'hui, 80 ans après, qu'on dit qu'ils ont été héroïques. Mais pendant 2 ans, ils s'étaient battus face à des Allemands, ils étaient surarmés, etc. Vous voyez ce que c'est l'héroïsme ? C'est quelque chose de grand. Ça ne veut pas dire que les policiers ne sont pas grands. Mais je tiens à dire aussi que les syndicats de police sont les premiers à souhaiter qu'il y ait des enquêtes pour bien montrer que leurs collègues ont agi et qu'il n'y ait pas la moindre suspicion.
Alors, on rappelle que c'est la première fois qu'un président de la République participe à une cérémonie.
Vous vous rendez compte ? 80 ans après.
Absolument. Donc, c'était à Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme, théâtre en juillet 44 du massacre de 73 villageois par la Wehrmacht. Charlotte Dornelas, venons à votre chronique. Vous avez vu toute la journée sur CNews ce reportage sur les chiffres qui montrent la surreprésentation des étrangers dans la délinquance, les vols, les cambriolages. Et ce soir, avec vous, Charlotte, nous irons un peu plus loin dans l'analyse de ces chiffres. C'est donc l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui a décortiqué les données publiées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, des chiffres qui avaient été publiés fin janvier. En quoi sont-ils saisissants ?
Oui, tout le monde va se souvenir de ces chiffres, puisque à l'époque, ce qui avait été communément admis et d'ailleurs transmis par le ministère, c'est qu'il y avait une augmentation générale de la délinquance et de la criminalité, notamment dans les atteintes aux personnes, donc qui sont les plus graves par rapport à la vie, évidemment, des personnes qui sont en jeu. Et là, Nicolas Pouvremonti, donc qui est le patron, le directeur, je ne sais pas, le porte-parole de cet observatoire de l'immigration et de la démographie, explique qu'il a analysé tous les détails et surtout le profil des personnes qui sont mises en cause, parce que ce service statistique se base sur toutes les données qui sont remontées par la gendarmerie et la police et non pas par la justice. Donc c'est tous les dossiers qui sont quand même suffisamment lourds pour être transmis au parquet, mais donc les personnes qui sont mises en cause. Et ce sont donc des données fiables qui viennent contredire le récit permanent. Vous savez, pour faire ce lien entre immigration et délinquance, souvent, ce qui est contesté, on dit mais on n'a pas de données suffisamment fiables. Et bien là, en l'occurrence, il y a des données et c'est pour ça qu'il les a analysées. Et le service statistique, d'ailleurs, souligne lui-même que les mises en cause, je le cite, sont plus jeunes en moyenne que la population française et plus souvent de nationalité étrangère que ce qu'ils représentent dans la population générale. Et la donnée saute aux yeux puisque toutes infractions confondues, vous avez 17% qui sont des ressortissants étrangers, 17% des mises en cause, sans compter les binationaux, donc des étrangers à 100%, qui ont une nationalité étrangère et une seule nationalité étrangère. Et l'INSEE explique qu'il représente 7,8% de la population générale. Donc vous passez de 7,8% à 17%, il y a une surreprésentation, c'est mathématique, comme dirait l'autre. Et au global, donc, c'est plus de 2 fois plus, et c'est pire pour certaines infractions qui, par ailleurs, sont en augmentation. Enfin, le nombre d'étrangers impliqués est en augmentation. On a 40% pour le vol dans les véhicules, 38% des cambriolages, 31% pour vol violent sans armes. Je rappelle, c'est 7,8% dans la population générale. Donc, il y a de fait une surreprésentation. Et il nous précise par ailleurs que dans les transports, les données sont accessibles par groupe de nationalité. Et là, les étrangers ressortissants de pays d'Afrique, incluant le Maghreb, toute l'Afrique, hors binationaux toujours, représentent 3,5% de la population générale en France et 39% des mises en cause de toutes les infractions qui sont faites dans les transports. Ils sont 17 fois plus présents pour vol sans violence, 14 fois plus pour vol avec violence, 8 fois plus pour les violences sexuelles, comme pour les outrages et violences contre les dépositaires de l'autorité publique. Donc, où que notre regard se tourne dans les données chiffrées à partir de la nationalité, vous avez de fait une surreprésentation des étrangers dans cette délinquance.
Parenthèse, on n'a plus besoin de statistiques ethniques, du coup.
Ah bah, Statistic Hunting, c'est autre chose, parce que là, en l'occurrence, on se base que sur la nationalité, mais vous allez voir, on va y venir, parce que évidemment que ceux qui s'opposent à cette lecture-là ne voient eux qu'une lecture ethnique, et c'est ça qui les gêne.
Alors, comment expliquer, Charlotte Dornelas, une telle violence, puisque les chiffres sont en effet indiscutables sur le constat?
Bah, c'est ce qui gêne, en fait, c'est l'explication, parce que s'il est vrai que les étrangers, là, en l'occurrence, sont surreprésentés, il n'est pas vrai, à l'inverse, qu'un étranger est par définition délinquant. C'est ce que voudrait, c'est cette confusion que voudraient entretenir ceux qui refusent de voir le lien entre les deux. Si c'est absolument vrai qu'il y a une surreprésentation des étrangers, ce qui ne veut pas dire tous les étrangers, évidemment, sont délinquants. Et le constat est le même concernant les personnes qui viennent d'Afrique, de l'Afrique de manière générale, hein, subsaharienne, et du Maghreb, qui eux aussi sont surreprésentés par rapport au nombre qu'ils sont aujourd'hui en France, l'inverse n'étant pas vrai. Alors en général, il y a d'abord l'objection, oui, la police par préjugé arrête beaucoup plus les étrangers. Alors là, premièrement, j'aimerais que les personnes qui nous expliquent ça viennent nous expliquer comment est-ce qu'on juge d'une situation administrative au faciès. Et là, ça rejoint votre question de tout à l'heure. Parce que là, en l'occurrence, ils sont en train de nous expliquer que les policiers, en voyant les personnes en face d'eux, les arrêtent plus parce qu'ils sont étrangers. Enfin, pardon, il y a des personnes noires ou arabes qui sont françaises. Donc là, on parle d'étrangers de nationalité. Donc il va falloir qu'ils m'expliquent que la situation administrative se voit au faciès. J'ai peur qu'ils fassent des amalgames qu'ils reprochent à d'autres de faire. Mais bon, je referme cette parenthèse. Ensuite, là, en l'occurrence, on parle de personnes mises en cause dont les dossiers sont transmis au parquet. Donc il y a quand même des éléments suffisamment graves pour que ça tienne dans la transmission au parquet. Par ailleurs, on a un quart des prisonniers aujourd'hui en France qui sont de nationalité étrangère. Pour partir en prison aujourd'hui en France, ça n'aura échappé à personne. Il faut non seulement être condamné, mais donc qu'il y ait des preuves qui tiennent devant un tribunal. On commande suffisamment des dossiers qui ne sont pas suffisamment solides ou qui devant les tribunaux ne tiennent pas ou qui ont des peines trop faibles et donc par la loi qui ne vont pas en prison. Donc aujourd'hui, quand vous allez en prison, c'est qu'il y a un dossier solide quand
très
même.
Solide.
Or, un quart des prisonniers aujourd'hui sont étrangers. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont expliquer? Que c'est la police encore? Je veux dire, il y a quand même des dossiers, il y a des preuves, il y a des éléments matériels dans ces dossiers-là. Et j'ajoute par ailleurs, et ça, Nicolas Pouvremonti le souligne également, les Algériens, par exemple, qui sont les plus représentés parmi les étrangers qui sont en prison. Là, je ne parle pas de binationaux, hein. Je parle d'étrangers algériens qui sont présents en France, qui sont 100% algériens. Ils sont les plus représentés et ils sont à eux seuls plus nombreux que tous les ressortissants des pays de l'Union européenne dans les prisons françaises. Donc il y a quand même un sujet, il y a au moins une donnée qui mérite d'être analysée. Alors évidemment, se pose ensuite la question, pourquoi? Pourquoi? Alors, il y a 1000 explications qui peuvent s'ajouter les unes aux autres. On a un rapport à la violence et parfois à la criminalité qui n'est pas le même dans certains pays d'origine et donc dans les pays dans lesquels ont grandi certains de ces ressortissants-là. Vous ajoutez à ça un parcours migratoire qui est parfois extrêmement... Je veux dire, on ne peut pas dire toute la journée les passeurs sont des criminels abominables qui mettent en place des réseaux de trafic dans lesquels ils impliquent les migrants et ils sont capables de leur coller un flingue sur la tempe sans comprendre que c'est un parcours relativement violent. En réalité, c'est ça qu'on est en train de décrire. Donc vous avez un rapport et une endurance à la violence qui n'est pas la même quand vous avez cette vie-là que quand vous grandissez dans une école en France avec malgré tout un parcours plus paisible, on va dire. Ensuite, il y a le rapport aux autres. Et là, ça peut être culturel, notamment aux femmes. Quand vous avez une surreprésentation sur les violences sexuelles, culturellement, on peut avoir un rapport aux femmes qui n'est pas le même que celui que vous apprenez en France. Ensuite, il y a la question... évidemment de l'exposition au réseau criminel par le biais de la pauvreté, et on voit et on commente suffisamment souvent aussi la manière dont ces gens vivent quand ils arrivent en France, parce que derrière l'accueil et les beaux mots de toutes nos belles âmes en France, il y a un accueil minable pour beaucoup de ces gens-là, et donc une pauvreté, et donc une exposition au réseau de criminels qui vont évidemment chercher par là, on en parle beaucoup dans le trafic de drogue. Il y a la question de l'impunité derrière, parce que dans les pays d'origine, il n'y a pas ces problèmes-là, hein, de rapport notamment à la délinquance, les jeunes mineurs délinquants qui arrivent ici, ils ne sont pas traités de la même manière. Dans les écoles, vous n'avez pas ce bazar dans les pays d'origine non plus. Donc il y a le rapport à l'impunité. Quand vous testez la limite et qu'elle n'arrive jamais, très naturellement, vous poursuivez. Et il y a aussi l'entretien. Et là, je pense que ça explique beaucoup la question des origines. L'entretien par le biais des associations d'accompagnement, notamment du discours. Un, extrêmement victimaire et de extrêmement revanchard à l'égard de la France, et donc aucun affect et aucun attachement qui ne se crée à aucun moment par rapport au pays de destination, en l'occurrence la France. Quand vous avez des personnes qui, à peine arrivées à Lampedusa, vous expliquent qu'elles veulent venir en France parce que c'est le moment de prendre la revanche sur la colonisation, ça part mal hein, dans le rapport avec le pays de destination. Donc les causes, elles sont discutables à l'infini, mais le constat, il reste le même et il s'invite partout en Europe. On a parlé il y a quelques jours de l'Allemagne et des autorités allemandes qui reconnaissent ce lien-là. Il est peut-être temps qu'on le reconnaisse sobrement aussi pour pouvoir le traiter. Hein. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, pour pouvoir le traiter.
Il y a une dernière question, mais j'aimerais bien qu'on puisse aborder, si vous voulez bien, une autre fois.
Ben oui.
Ce rapport, parce que j'aimerais vous relancer sur un point, sur un rapport de l'association Destin Commun, qui a été publié donc, par l'association Destin Commun, qui permet de comprendre la répartition des réfugiés, comment elle n'a pas fonctionné, notamment à Calac. On en parlera demain, si vous voulez bien.
Pas de problème.
En revanche, juste lorsque vous dites, par exemple, que le rapport à la violence n'est pas le même dans le pays d'où ils viennent, parfois, on ne comprend pas.
Vous avez des sociétés qui sont objectivement plus criminogènes, plus violentes. Alors, certains vous diront que c'est des pays extrêmement pauvres, donc il y a un rapport à la prédation même de ce qui appartient à autrui, même dans la relation humaine. Quand vous avez des pays où vous voyez très régulièrement des gens se régler leur compte à la machette, c'est pas le même rapport qu'un petit gamin qui a grandi dans je sais pas quel village en France. C'est juste factuel, en fait. Donc, vous avez une acceptation de la violence. D'ailleurs, quand on dit le rapport, pardon, aux films, aux réseaux, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, etc., que la différence entre le virtuel et le réel dans l'exposition à la violence, c'est bien que l'exposition à la violence a un rôle sur la violence dont on est capable soi-même. Donc, c'est évidemment une donnée qu'il faut prendre en compte, notamment au moment de penser notre politique migratoire, me semble-t-il.
Merci beaucoup Charlotte Dornelas pour cette analyse détaillée. Mathieu Bock-Côté, on parlait tout à l'heure de cette conférence qui vous a pas énervé mais révolté, qui a été interrompue à Bruxelles. Les autorités s'en émeuvent également, on l'a vu au cours de cette émission. Et là, c'est une histoire qui occupe de plus en plus de place dans le débat public et à laquelle nous faisions écho hier. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan feront une conférence à l'Université de Lille jeudi, il y a une à Lyon demain, une à Nantes il y a quelques jours. Mais cette conférence a fait scandale. D'abord parce qu'il s'agit de meeting politique dans une université, à Nantes, Lyon et également, mais surtout parce que l'association invitante nie par son logo l'existence d'Israël. Et maintenant, plusieurs à droite voudraient interdire l'événement. Que comprendre de cette séquence ?
Alors, vous avez bien dit les choses. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Rima Hassan, donc sa candidate, qui sont invités, la puissance invitante, l'association Libre Palestine. On comprend par son logo qu'elle conteste l'existence même d'Israël. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Cette contestation est là. Dans l'université, je reviendrai sur ça ensuite. Là, il y a une mobilisation, ça choque plusieurs. Plusieurs sont très choqués par ce logo, et je le comprends très bien. Mais on passe, pour plusieurs dans la classe politique, passe du fait qu'ils sont choqués par ce logo, choqués par le discours qu'ils pourraient entendre à cette conférence, à un appel à l'interdiction de la conférence. Et là, les appels sont venus d'à peu près tout ce qui est à droite du centre-gauche. Donc, j'y vais dans l'ordre. Renaissance et Horizon ont demandé de faire annuler la conférence en disant que l'extrême-gauche ne devait pas s'emparer des universités. Caroline Gadane l'a demandé aussi en disant que c'était absolument scandaleux. Les LR, par la voix de Xavier Bertrand, ont demandé l'interdiction de cette conférence. Et même le RN, qui, à ce que j'en sais, avait l'habitude de se faire annuler, semble goûter au plaisir aujourd'hui dans la position de l'annuleur, hein, du censeur. Donc, à travers Sébastien Chenu, qui dit, avec tous les parlementaires RN du Nord d'ailleurs, nous demandons l'interdiction d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan à l'Université de Lille. Donc, ils y sont tous. L'ensemble de la classe politique dit, cette conférence est scandaleuse. Nous demandons son interdiction pour des raisons politiques.
Oui, c'est ça, c'est notre base.
Non, mais pour des raisons politiques. On dit, nous n'aimons pas ce qu'on va entendre là, le discours nous choque, donc on veut l'interdire.
Non, ils disent que oui, qu'ils veulent supprimer Israël, etc.
Oui, là, bien sûr, mais ce discours qui n'a aucun sens. La question est, si on décide d'interdire tous les discours qui n'ont pas de sens, on va passer notre vie à faire des lois de censure. Ah, c'est déjà le cas. Mais bon, j'y reviens. Là, ça va être compliqué pour les universités, cela dit. Parce que normalement, les universités n'interdisent pas formellement sur une base « nous n'aimons pas l'opinion qui se tiendra ». L'argument toujours utilisé, c'est « ah, mais la sécurité est compromise ». Et la sécurité est compromise, donc on doit annuler l'ordre public. Mais normalement, qu'est-ce qui explique que la sécurité soit compromise? C'est que les antifas s'en mêlent et menacent de semer le tintouin et d'user de violence la plus grande pour être capable d'interdire une conférence. Pensez-vous un instant que les antifas vont chercher à interdire une conférence de la France insoumise? Soyons sérieux, ces gens-là sont plutôt amis. Donc, les raisons utilisées normalement par les directions de l'université pour justifier l'annulation d'une conférence ne seront pas rassemblées cette fois. On leur demande d'interdire sur une base idéologique et ça devient plus compliqué, effectivement. Décider d'interdire sur une base idéologique ou de préférence politique, c'est peut-être pas l'idée du siècle.
Vous situez le débat sur le terrain de la liberté d'expression. On aime bien ce sujet-là, nous. Mais l'annulation de cette conférence, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Question. On ne peut quand même pas admettre n'importe quel discours dans l'espace public. C'est une question. Et surtout, pourquoi LFI serait-elle en droit de faire campagne gratuitement dans les universités? Et ça aussi, ça interpelle.
Alors, qu'on se comprenne bien. Tous les partis sont les bienvenus dans les universités,
oui.
Pour peu qu'il y ait une association invitante, soit aucun ne l'est.
C'est ça.
Mais moi, en ces matières, donc, j'ai pas de problème de principe parce qu'un parti soit invité à l'université, c'est un espace public, mais à condition que tous les partis puissent s'y présenter sans risquer la sanction. Première chose. Ensuite, sur le fond des choses, ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que, oui, je pense qu'on doit avoir le droit de dire même des choses qui nous révoltent. Vous savez, en matière de liberté d'expression, moi, je suis le partisan du maximalisme. On a le droit de tout dire, sauf appel à la violence et diffamation. Et dès lors, ce qui est assez drôle, cela dit, c'est de voir LFI se présenter aujourd'hui dans la position de la victime en matière de liberté d'expression. Ça, c'est la part amusante du récit. Donc, ils disent, nous sommes victimes aujourd'hui, nous défendons la liberté d'expression. Eux, les spécialistes du tribunal révolutionnaire de l'Assemblée nationale, qui cherchent à faire fermer une chaîne d'infos. Quand on pense à l'extrême gauche, qui multiplie les critères pour justifier l'exclusion des uns, la persécution des autres, qui mobilise des associations pour traîner devant les tribunaux tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie dominante. Donc ça, c'est quand même amusant de voir l'extrême gauche cette position. Un dernier détail, tout petit. On a appris aujourd'hui, c'est dans la même logique que Libération nous disait suite à Mediapart, qu'ils sont très indignés qu'Aurore Berger ait refusé d'embaucher quelqu'un à cause de son parcours politique qui était auparavant chez Mouvement à la bande à Benoît Hamon. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on ne devrait pas sanctionner quelqu'un sur son passé politique quand vient le temps de l'embaucher, mais je suis surpris de voir Libération et Mediapart s'indigner qu'on fasse enquête sur le parcours des uns et des autres en disant ces idées font en sorte qu'on ne devrait pas l'embaucher. Mais ils passent pas leur vie à faire ça, nos amis de Mediapart et Libération. Ils sont pas toujours en train de mener une enquête pour justifier les raisons de condamner les uns les autres. Quoi qu'il en soit, je termine ainsi. La liberté d'expression, c'est bon pour tout le monde, même pour ceux qu'on n'aime pas, même pour les gens de la France insoumise.
Merci infiniment à tous. Excellente suite de programme. L'heure des pros de Pascal Pro. À demain.